Chapitre 14. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Mary Pat le regarde fixement. Elle est incapable de dire depuis combien de temps elle est assise sur le canapé de la salle de séjour, incapable de dire depuis combien de temps ce téléphone sonne. Il s'arrête. Et puis, une minute plus tard, il recommence. Il s'arrête après 9 sonneries. Une minute de silence, peut-être plus. Peut-être 5 minutes. Et puis, de nouveau, il se met à sonner. Une fois, deux fois, trois fois. C'est au milieu de la 4e sonnerie que Mary Pat débranche doucement le fil à l'arrière. C'est probablement Meadow Lane. Elle devrait être au travail en ce moment même. Quand elle en prend conscience, l'idée transperce presque l'engourdissement dans lequel elle est plongée depuis qu'elle a ouvert la sacoche que lui a donnée Marty Butler. Mais l'engourdissement est encore trop fort. C'est de la novocaïne de la tête aux pieds. C'est un engourdissement pesant. Ça n'a rien de ouaté ou de calmant. Il lui comprime la peau, le sang, le cerveau et les terminaisons nerveuses. C'est comme une main qui lui agrippe la nuque et lui plaque le visage sur le sol. Parce que cet engourdissement redoute ce qui arrivera si jamais elle pose le pied par terre. Mais il n'a rien à redouter. Mary Pat n'imagine pas une seconde retrouver ses jambes. Pas d'une façon qui compte vraiment. Elle n'imagine pas une seconde retourner au travail pendant un bon moment. Elle doute qu'il y ait encore du travail pour elle quand elle sera prête à y retourner. Et c'est très bien ainsi. Elle a trouvé une station sur sa radio, WJIB, qui ne passe que de la musique classique, et elle l'écoute en permanence. Elle ne la ferme même pas quand elle va se coucher. Non qu'il y ait beaucoup de sommeil dans sa vie ces jours-ci. Depuis son enfance, elle a toujours été fan du hit parade, jamais d'un groupe en particulier, juste de la musique du jour. Cet été, elle a adoré Rock the Boat, Billy Don't Be a Hero, et sa préférée, Don't Let the Sun Go Down on Me. Mais à présent, toutes ces chansons lui paraissent stupides parce qu'elles n'ont pas été écrites en ayant à l'esprit quelqu'un comme elle. Même ses paroles, « Tout perdre, c'est comme si le soleil se couchait sur ma vie », lui semblent insuffisantes. Parce que « tout perdre », ce n'est pas comme si le soleil se couchait sur sa vie. C'est comme si une bombe atomique avait explosé à l'intérieur d'elle-même et maintenant, elle fait partie du nuage en forme de champignon. 1000 petits fragments d'elle se désintégrant et voltigeant dans l'espace, dans 1000 directions différentes. En ce qui concerne les airs classiques, elle ne connaît pas les titres, ni les noms des compositeurs, à moins que l'animateur n'intervienne à la fin d'un ensemble de 4 ou 5 morceaux, et dans ce cas, les premiers entendus sont déjà trop loin pour qu'elle puisse attribuer les noms aux airs appropriés. Mais cette musique parle à sa douleur comme rien d'autre ne peut le faire. Elle se glisse à travers la novocaïne. Pas suffisamment pour parvenir jusqu'à son cœur, mais suffisamment pour parvenir à sa tête. Mary Pat flotte sur les notes comme si ces notes étaient des courants dans une vaste étendue d'eau. Une étendue d'eau sombre, elle en est certaine, un grand fleuve dans la nuit. Et elle atteint une région de son esprit où toute son histoire et celle de sa famille avant elle et de la famille qu'elle a formée s'entremêlent. Elle pressent, bien qu'elle ne puisse ni la sentir ni l'exprimer, une connexion entre tous ceux de sa lignée qui ont vécu et qui sont morts. Bien sûr, une partie de cette connexion est un héritage ethnique. Tous étaient Irlandais et tous n'ont épousé que des Irlandais depuis que les premiers d'entre eux, Damien et Mère Flanagan, sont descendus du navire à Long Wharf en 1889. Mais l'autre partie de la connexion est plus insaisissable. Et pourtant, portée par le courant de Beethoven, Brahms, Chopin ou Handel, elle peut toucher une parcelle d'elle-même qui lui semble bien plus vraie que réelle. Une Mary Pat originelle, une Mary Pat Ève biblique, une Mary Pat dont les racines remontent si loin qu'elle a peut-être rendu le dernier soupir dans une tourbière du village de Tully Cross, dans le canton de Gortyn Clough, au XIIe siècle. Et cette Mary Pat originelle comprend quelque chose dans la musique concernant les liens qui les unissent tous dans cette famille. Depuis le premier Flanagan né américain, Connor, jusqu'à la dernière Fennessie née américaine, Jules, qui donne du sens à l'histoire de la lignée. La Mary Pat d'aujourd'hui ne parvient pas à mettre le doigt sur ce que c'est, mais elle écoute les notes avec la vague conviction qu'il se pourrait qu'elle y parvienne un jour. Par sa fenêtre, elle voit un buste passer en se baissant. Deux flics poursuivent un des frères Philan, qui peut dire lequel, ils se ressemblent tous les neuf, tous promis à la prison dès l'instant où ils ont quitté la maternité, à l'intérieur de Commonwealth, et le plaque au sol sur l'asphalte devant le bâtiment Morris. Un des frères Philan qui se fait arrêter, il n'y a là rien de sensationnel, c'est comme une feuille qui tombe d'un arbre. Seulement voilà, l'un des flics est noir. Ça fait sortir les voisins à grande gueule, qui se mettent à hurler les nègres par-ci, les nègres par-là. Et puis des gosses montent sur le toit des immeubles, et les bouteilles et les pierres se mettent à pleuvoir. Rapidement, les voitures noires et blancs et les paniers à salade envahissent les allées qui serpentent entre les bâtiments de la cité. Les véhicules s'arrêtent dans un crissement de pneus. Les portières s'ouvrent et se referment en claquant. Les parents battent en retraite, mais les gosses sur les toits ont déniché des sacs poubelles quelque part et ils commencent à bombarder les flics avec des laitues pourries et des boîtes de conserve d'Intimour vides, des pommes de terre avariées qui explosent quand elles atterrissent sur une voiture ou sur une tête. Au bout d'un moment, les gosses déguerpissent et tout se calme. Un des flics regarde les éclaboussures de pommes de terre blanc cassées projetées un peu partout, les fenêtres criblées de nouvelles fêlures et d'éclats de vitres brisées par les pierres, et les bouteilles fracassées qui jonchent le sol. Et il lance en direction des moustiquaires de fenêtres autour de l'endroit où la mêlée a eu lieu. « Vous nettoirez tout ça vous-même! Pas question qu'on vous envoie les services de la voirie, bande d'animaux !» Et il se retire comme une armée d'occupation, écœurée par ceux qu'ils sont forcés de gouverner. Plus tard, les femmes et les gosses qui ont fait ça, plusieurs d'entre eux arborent de nouvelles contusions ou un œil au beurre noir, cadeau des hommes qui les ont engendrés, sortent avec des balais, des pelles et des seaux et entreprennent de nettoyer toutes ces saletés. Normalement, Mary Pat ne ferait ni une ni deux et se précipiterait pour les aider. C'est là-dessus que se fonde la communauté, a-t-elle toujours pensé, donner un coup de main. Mais elle est incapable de se lever de son canapé. C'est comme si elle y était clouée. Et puis, où est cette communauté en ce qui la concerne? À présent, elle sait que tout le quartier doit être au courant. Personne n'a revu Jules depuis 6 jours. Le bruit doit aussi courir qu'il est préférable de ne pas poser de questions à son sujet non plus. Donc, tout le monde sait, tout autant qu'elle, que sa fille est morte. Mais personne ne vient la voir. Personne ne lui passe un coup de fil. Big Peg est venue une fois. Elle a tapé 3 ou 4 coups à la porte, mais Mary Pat n'a pas répondu. Elle savait que, quelles que soient les preuves qu'elle pourrait présenter à Big Peg, que c'était les gars de Marty Butler qui avaient tué Jules, Big Peg ne voudrait rien entendre. Marty n'est pas simplement le protecteur de ça aussi. Il n'est pas simplement l'enfant chéri de ça aussi. Marty n'est pas simplement pour eux tous le rebelle qui fait un pied de nez à l'ordre établi. Marty est ça aussi. Croire que Marty est mauvais, pas seulement un criminel, pas seulement l'auteur de magouilles et de manigances, pas seulement celui qui dirige un milieu qui doit bien être dirigé par quelqu'un, et donc, pourquoi pas lui? C'est croire que ça aussi est mauvais. Et Peg ne pourrait jamais s'y résoudre. Alors plutôt que mettre son âme à nu devant une sœur qui tournerait le dos à cette âme et lui demanderait de se rhabiller au nom d'une décence élémentaire, Mary Pat n'est pas allée ouvrir la porte. Elle finit tout de même par aller l'ouvrir quand les sœurs du groupe Swab lui rendent visite. Elles sont une demi-douzaine. Elles ne sont pas liées par le sang ou le mariage, mais elles s'appellent ainsi parce qu'elles sont amies depuis au moins 20 ans et qu'elles ont été la première association formée en réaction à la décision du comité de l'enseignement d'entendre les revendications des familles de couleur qui ont porté plainte dans l'affaire Morgan contre Hennigan. SWAB signifie South Sea Women Against Pussing. Mary Pat a assisté à une de leurs premières réunions. C'était en 1971, longtemps avant que qui que ce soit ne commence à croire que cette histoire de bussing pouvait déboucher sur du concret. Elle était arrivée juste au moment des donuts et du Lambrusco Reunité. À l'époque, SWAB ne comportait que les 6 femmes qui se présentent maintenant à sa porte. Le 7e jour après la disparition de Jules, Carol Fitzpatrick, Noreen Ryan, Joyce O'Halloran, Patty Burns, Maureen Kilkenny et Anna Spochnicki, née Carmody. Mary Pat a accepté de devenir membre à part entière en 1973, quand il est apparu que, putain de merde, cette connerie de bussing pourrait bien devenir réalité. Mais elle n'est pas ce qu'on appellerait un membre militant. Elle veut bien faire quelque chose si elle le lui demande, mais ce n'est pas elle qui va les voir. La plupart des femmes du SWAB, qui en comptent 200 aujourd'hui, sont comme Mary Pat. Mais les sœurs du SWAB, les 6 d'origine, ces garces, sont de vrais missionnaires zélés. Le visage de leur meneuse, Carol Fitzpatrick, apparaît dans le judas de la porte de Mary Pat. Les 5 autres sont disposés en éventail derrière elle. Mary Pat vient de sortir d'une douche qu'elle ne se souvient pas avoir prise. Et elle est là, dans un peignoir qui a connu des jours meilleurs, avant les débats Kennedy-Nixon, et se sentant plus engourdie que jamais. Les femmes de l'autre côté du judas ont l'air tout droit sorties d'un dessin humoristique, peut-être pas inoffensive, mais comique, sans aucun doute. Carol n'a besoin de frapper que quelques fois avant que Mary Pat ne lui ouvre. Elles ont l'air surprises, comme si elles ne s'attendaient pas vraiment à la voir. Ou alors, c'est qu'elles s'attendaient à ce qu'elle ait meilleure allure.
« Mary Pat !» dit Carol en tapant des mains joyeusement. « Mais où étais-tu ?»«
Ici, » répond Mary Pat en s'écartant pour les laisser entrer. Aucune d'elles ne semble remarquer l'évier qui déborde de vaisselle, les cendriers archi-pleins, les canettes de bière vides dans tous les coins, les verres poisseux de restes d'alcool, les boîtes de pizza, le carton de poisson pané frites à emporter, les sacs de McDonald's froissés en boule sur le plan de travail de la cuisine.
« Il faut qu'on t'aide pour que tu sois prête, » dit Joyce.
« Prête pour quoi ?» demande Mary Pat, ce qui les fait toutes rire.
« Prête pour quoi ?» dit Patty Burns. « T'es un sacré numéro, toi !»« Viens, viens !»
Maureen Kilkenny l'emmène dans le couloir jusqu'à sa chambre. Une seconde plus tard, ou c'est l'impression qu'elle a, Carol les a rejointes et les 2 femmes fouillent dans le placard peu fourni de Mary Pat. Elle jette une robe sur le lit, suivie d'une autre, puis un ensemble corsage-jupe. Viennent ensuite les chaussures. Mary Pat n'a que 2 paires de chaussures habillées, une à talons hauts, l'autre à talons plats, ce qui réduit immédiatement le choix. Elles tiennent chaque robe, puis l'ensemble corsage-jupe devant Mary Pat, et elles se regardent les laisser faire. Elle les entend gazouiller au sujet de ce qui lui convient le mieux et qui pourrait aller avec les chaussures. Ça ne peut être que les plates, selon Carol. Personne ne peut supporter des talons hauts tout le temps qu'elles vont devoir rester debout. Et en plus, ça enverrait un message contradictoire. Mary Pat se voit plantée là, dans sa chambre. Mais ce n'est pas elle. C'est la Mary Pat Novocaïne, l'engourdie, la perdue, la vaincue. Carol et Maureen se décident en faveur de l'ensemble corsage-jupe. Le corsage est rouge vin et la jupe est un modèle à carreaux vaguement écossais. Les chaussures sont noires. Une fois les vêtements enfilés, elle s'occupe de ses cheveux et du maquillage dans la salle de bain et quand Mary Pat s'aperçoit dans le miroir, elle éprouve une étrange fierté en constatant qu'elle a un air de goule, une sorte de créature vidée de tout son sang mais qui continue tout de même à marcher parmi les vivants. Elle la ramène en vitesse dans la pièce principale où attendent les 4 autres. Les emballages de fast-food et les canettes ont disparu, les cendriers sont vides, les verres sont en train de sécher sur l'égouttoir.
« On va où ?» demande Mary Pat.
De nouveau, elles éclatent toutes de rire devant l'absurdité de la question. Puis Anna Spochnicki lance «
La manif !»
Au City Hall,
dit Carole. Ah, parvient à dire Mary Pat. C'est vrai.
On peut pas y aller sans toi, idiote,
s'exclame Noreen Ryan sur un ton bien trop enjoué si l'on considère la peur dans son regard.
On a besoin de tout le monde, dit Carole. Toutes les personnes sur qui on peut mettre la main.
L'absurdité de la phrase, dans sa situation actuelle, n'échappe pas à Mary Pat. Elle sourit à Carole. Toutes les personnes sur qui vous pouvez mettre la main. Et si vous pouvez pas?
Quoi?
Mettre la main sur la personne.
Mary Pat n'a aucune idée de combien de temps elle la regarde toute fixement.
Ça pourrait être une seconde, ça pourrait être 5 minutes. Mais allez voir, on dirait bien que presque toutes préféreraient prendre leurs jambes à leur cou et filer de là en vitesse.
Peut-être, se dit Mary Pat, que je vais devenir une de ces femmes qui poussent tout ce qu'elles possèdent dans un caddie et qui dorment dans les jardins publics.
Tu as besoin d'air frais, dit Carole. Tu as besoin de faire partie de quelque chose de significatif. Tu as besoin d'avoir un but, Mary Pat. Maintenant, plus que jamais.
Maintenant, plus que jamais. Donc, elles savent.
D'accord, s'entend dire Mary Pat. Elles lui font franchir la porte comme si elle était sur un diable.